Merci d'écouter Radio Capi. C'est l'heure de vous informer.
Radio Capi.
Le journal Babel Pongo Massimango.
Bienvenue à votre journal de midi, heure de Kinshasa. La proposition de loi sur le référendum poursuit son bonhomme de chemin. Elle a été adoptée hier au Sénat, mais la Chambre haute y a apporté une modification en excluant les conseillers communaux de l'Assemblée constituante, ce qui oblige les deux chambres à se mettre ensemble pour un compromis. Et puis, le rétablissement réel de l'autorité de l'État dans les territoires sous influence des groupes armés, c'est parmi les éléments importants que plusieurs habitants de Bounia attendent du nouveau gouverneur de l'Ituri. Le général Gabi Kasongo Omulumba a officiellement pris ses fonctions hier. Vous êtes nombreux à suivre la Coupe du Monde et à vous énerver aussi hein, quand les rencontres ne sont pas retransmises à la télévision nationale. Didier Mboui, assistant principal du directeur général de la RTNC, est notre invité. Il explique pourquoi la chaîne nationale ne peut pas tout diffuser et aussi nous donne le calendrier des rencontres qui vous seront proposées. Madame, Monsieur, bonjour. La proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum franchit une nouvelle étape au Parlement. Après son adoption par l'Assemblée nationale, le texte porté par le député Paul Gaspard Ngondakoy a été approuvé hier lundi par le Sénat lors de la clôture de la session ordinaire de mars. Mais la Chambre haute y a apporté une modification qui oblige désormais les deux chambres à rechercher un compromis. Ce dossier sur le référendum continue également de nourrir des tensions au sein de la classe politique. DDT avec grâce à Mzati, notre permanent au Parlement.
C'est à l'unanimité des 89 sénateurs présents que le Sénat a adopté cette proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en RDC. Porté par les députés Paul Gaspard Ngondakoy, le texte a toutefois été approuvé dans une version différente de celle adoptée précédemment par l'Assemblée nationale. La principale modification concerne la composition de l'Assemblée constituante, instance prévue dans le cadre du processus référendaire, est appelé à examiner un éventuel projet de réforme constitutionnelle. Contrairement à la Chambre basse, le Sénat a choisi d'exclure les conseillers communaux de cette structure. Cette modification empêche, pour l'instant, l'adoption définitive du texte et nécessite la mise en place d'une commission mixte paritaire chargée d'harmoniser les versions adoptées par les deux chambres. Une fois un accord trouvé, le texte pourra être transmis au président de la République pour promulgation. Sur le plan politique, la réforme continue de susciter des réactions contrastées. La majorité la présente comme un mécanisme destiné à encadrer l'organisation des référendums prévus par la Constitution. L'opposition, en revanche, demeure méfiante.
En parlant justement de réaction, le sénateur Salomon Idi Kalonda appelle le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à faire retirer cette proposition de loi sur l'organisation du référendum en RDC. Dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État hier lundi à Kinshasa, l'élu de l'opposition estime que cette initiative est non seulement inopportune dans un contexte marqué par la crise sécuritaire dans l'est du pays, mais qu'elle constitue également une faute historique grave. Comme d'autres opposants, cet élu considère cette réforme comme une étape vers un changement de la Constitution et affirme qu'elle pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat présidentiel. Salomon Idi Kalonda exhorte ainsi Félix Tshisekedi à, je cite, « rester du côté du peuple et à sortir par la grande porte ». Il le dit dans cet extrait que nous propose Grâce Mzati.
Monsieur le Président, vous avez hérité d'un nom, d'un combat. En soumettant cette proposition de loi, votre regroupement politique commet un parjure. C'est une trahison à la mémoire des 13 parlementaires, parmi lesquels Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Ces hommes ont bravé la dictature la plus féroce, enduré la prison, les relégations, la torture, pour que le Congo ne soit plus jamais, alors plus jamais, la propriété d'un seul homme ou d'un clan. Comment alors prétendre honorer cet héritage, alors que le pouvoir actuel reproduit méthode pour méthode les dérives qu'il avait lui-même dénoncées par le passé? Organiser un référendum dans cet environnement, c'est entériner cette division du pays que rien ne saurait justifier. Vous seul pouvez encore retirer ce texte et éviter à notre pays une crise constitutionnelle grave. Alors l'histoire retiendra, soit que vous avez été celui qui a liquidé l'héritage démocratique de la RDC, soit celui qui, au moment décisif, a choisi la patrie plutôt que le pouvoir.
Poursuivons ce journal avec ce cri de cœur. Nous voulons le rétablissement effectif de l'autorité de l'État, dont ils sont encore sous influence des groupes armés, notamment dans les territoires de Djougou, Maïki, Irungu et Mambasa. C'est l'une des principales attentes exprimées par plusieurs habitants de Bunia à l'endroit du nouveau gouverneur militaire de l'Ituri. Le général Gabi Kasongo Mulumba a officiellement pris ses fonctions hier lundi 15 juin à Bunia lors d'une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur. Le général Johnny Luboyan Kachama vient de passer 5 années à la tête de la province de l'Ituri sous l'état de siège. Au-delà des questions sécuritaires, les habitants de Bunia souhaitent également que le nouveau gouverneur poursuive les efforts de développement, en particulier dans le domaine des infrastructures. Leur réaction recueillie par Martial Kizabiamungu.
Il vit pour accomplir ou pour parachever l'œuvre qu'a laissée son prédécesseur. Et cette œuvre n'est rien que restaurer définitivement la paix et le développement concret dans notre province de l'Ituri. Vous êtes sans ignorer que le gouverneur partant a fait de ses mieux et a laissé aussi ses traces. Autant nous voulons à ce que l'entrant puisse aussi faire sa part.
Pour le nouveau gouverneur, nous voulons seulement le développement et le changement et l'autorité de l'État qui règne dans la province de l'Ituri. L'affaire de l'État, c'est une affaire continuelle. Qu'il commence de ce qu'il a retrouvé jusqu'à ce qu'on puisse terminer notre province.
Nous, comme habitants de Bunia, nous n'avons qu'une seule attente prioritaire, c'est le rétablissement de la sécurité, rien que la sécurité. Nous pensons que le gouverneur sortant a fait l'essentiel et lui va venir finir avec cette histoire de guerre et nous avons l'espoir d'une paix durable. Mais aussi de l'autre côté, parachever l'élan du développement qu'avait entamé déjà son prédécesseur.
Et quelques habitants de Bunia que vous venez de suivre. Nous sommes en Nord Kivu à présent. La prison urbaine de Beni a reçu hier lundi un lot important de matériel destiné à améliorer la sécurité des détenus et du personnel. Il s'agit d'un appui de la MONUSCO à travers le projet de fourniture d'équipements de sécurité pour les prisons prioritaires de la RDC, mis en œuvre par son unité d'appui à l'administration pénitentiaire. Ce projet vise à améliorer la sécurité dans 4 prisons prioritaires de la RDC, Ndolo et Makala à Kinshasa, ainsi que celle de Bunia et Beni.
Cette dotation est composée de plusieurs équipements, notamment des miroirs de sécurité, des lampadaires, des détecteurs de métaux, des insecteurs, des équipements de protection individuelle contre les intempéries, ainsi que d'autres matériels essentiels. C'est pour améliorer les conditions de sécurité dans ces lieux de détention, dans un contexte marqué par le retour de l'activisme des groupes armés au cœur de la ville de Beni. Pour le directeur de la prison centrale de Beni, cet appui va indéniablement améliorer la qualité du dispositif sécuritaire au sein de la prison urbaine de Beni. Tsongo Makelele.
Je vous rassure que ces matériels de sécurité vont contribuer à l'amélioration de la sécurité même de l'établissement. C'est dans ce sens que nous disons sincèrement à cette unité de la MONUSCO qui venait de nous appuyer à un don important de matière de sécurité. Que ce soit sur le plan sécuritaire, je vous rassure qu'aujourd'hui, s'il y a une clôture qui est érigée à Kangwaï, c'est la MONUSCO qui a construit cette clôture.
Rappelons que la prison urbaine de Beni a déjà bénéficié de plusieurs appuis de la MONUSCO à travers notamment la construction d'un mur de clôture pour renforcer la sécurité des détenus et du personnel, l'installation des caméras de surveillance pour renforcer la sécurité, la construction et l'équipement d'une infirmerie ou encore l'installation des panneaux solaires dans les quartiers des femmes détenues. Beni, Marc Marufimbo, Radio Okapi.
La journée de l'enfant africain est célébrée aujourd'hui 16 juin à travers le continent. C'est pour honorer la mémoire des centaines d'enfants massacrés à Soweto en Afrique du Sud le 16 juin 1976. Ces écoliers manifestaient pacifiquement contre le système éducatif discriminatoire imposé par le régime de l'apartheid. Ils exigeaient une éducation de qualité et refusaient l'imposition de l'afrikaner comme langue d'enseignement dans la province du Lualaba ici en RDC. La présence des enfants dans des sites miniers est préoccupante selon plusieurs spécialistes. Ces enfants exploitent des minerais souvent autour des sites miniers artisanaux. Ils creusent, lavent et transportent des minerais dans des conditions dangereuses. Ils le font souvent pour garantir leur survie ou pour subvenir aux besoins de leur famille. L'ONG ERAPI s'est investi dans ce dossier pour sortir ces enfants des sites miniers. Paula Munanga a pour les détails.
Après une enquête menée par cette ONG dans des sites miniers d'exploitation du cobalt de la ville de Kolwezi, il ressort que les enfants sont présents dans les mines pour diverses raisons. Il y a ceux qui accompagnent leurs parents qui font les petits commerces, surtout dans les sites d'exploitation artisanale. Il y a aussi des enfants qui exercent eux-mêmes les activités des petits commerces et sont exposés au quotidien dans cet environnement nocif. Et il y a des enfants qui travaillent dans les mines. Certains lavent les minerais, d'autres creusent et d'autres encore les transportent. importent. La plupart exercent ce travail comme moyen de survie et d'autres le font avec la complicité tacite de leurs parents. Le coordonnateur national des Rapines SBL annonce que son ONG, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail OIT, a déjà fait sortir plusieurs enfants dans les mines. Albert Ibonga explique comment ces enfants sont réinsérés dans la société.
Nous avions commencé à former certains jeunes à des métiers par le fait qu'ils avaient presque abandonné les études depuis très longtemps. Et là, on avait formé 25 enfants qui avaient été formés à métier et l'équipe d'insertion socio-économique leur avait été donnée.
Signalons que les mineurs, garçons comme filles, dont la tranche d'âge varie généralement entre 8 et 17 ans, se retrouvent dans les sites miniers, souligne les Rapines SBL. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Toujours en rapport avec la journée de l'enfant africain au Maniema cette fois, l'ONG Akis Abinadamo déplore l'absence de mesures concrètes pour l'application des lois encadrant la protection des enfants. Raphaël Oupelele salue néanmoins les avancées législatives avec de nombreux instruments et textes qui promeuvent le droit de l'enfant. Il invite les décideurs à mettre en place une véritable politique en faveur de ces droits. Écoutons Raphaël Oupelele au micro de Florence Kizalunga.
À l'occasion de cette journée du 16 juin, il est question aussi d'évaluer les droits de l'enfant africain. Et nous constatons avec bonheur, il est vrai, l'avancée législative. Il y a beaucoup d'instruments ou textes législatifs qui protègent, qui promeuvent les droits de l'enfant, mais il reste encore beaucoup d'autres mesures d'application en termes de mécanismes. Vous savez, il y a les tribunaux pour enfants, les établissements de garde, et il y a beaucoup d'autres mécanismes qui sont là, mais qui n'ont pas les moyens de leur politique. C'est pour cela que cet instrument, notamment la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, continue à souffrir. Alors, c'est aussi une occasion pour nous de demander aux politiciens, aux décideurs, pour qu'ils ne puissent pas avoir à chaque fois les droits politiques, notamment le changement ou la révision de la Constitution, leurs intérêts égoïstes ou mesquins, mais aussi de préparer notre avenir. Sinon, nous allons hypothéquer les pays si nous ne faisons pas attention. Et puis, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune politique presque des droits de l'enfant. On se focalise juste à d'autres choses, à la politique, ce qui est mort.
Et alors que le monde célèbre ce mardi 16 juin la journée de l'enfant africain, à Matadi, de nombreux enfants sourds rencontrent encore de grandes difficultés pour accéder à une éducation adaptée à leurs besoins. La seule école spécialisée de la ville peine aujourd'hui à offrir un accompagnement complet, faute de moyens insuffisants. Selon son directeur, plusieurs défis compliquent la prise en charge. C'est entre autres le manque d'enseignants formés à l'éducation spécialisée, l'insuffisance des infrastructures adaptées et la faible connaissance de la langue des signes au sein de la population. Cette situation affectent non seulement leur scolarité, mais aussi leur insertion sociale et leur développement personnel. Élise Kavira nous en dit plus.
Dans une société où la parole est le principal moyen de communication, les enfants sourds peuvent rapidement se sentir exclus, parfois même au sein de leur propre famille. Les parents doivent alors y penser la dynamique familiale pour permettre à l'enfant de trouver pleinement sa place et de s'intégrer dans la société. C'est le témoignage de Laurette Luamba, mère d'un enfant sourd.
Chez moi ici, tous les enfants ont appris la langue des signes. C'est pour une meilleure communication entre eux. Alors, aux parents qui ont des enfants sourds, aidez-le en les envoyant à l'école pour qu'ils bénéficient des mêmes opportunités que les autres.
Pour sa part, le directeur Giscard Massémi insiste sur l'importance des services d'accompagnement pour aider les enfants sourds à apprendre et à s'intégrer pleinement.
Dans l'enseignement spécial, il y a beaucoup de services qui doivent être organisés. Par exemple, services d'oreille, de logopédie et les services de kiné. L'État doit aussi penser à cela. Sans partenaire, en tout cas, nous aurons d'énormes difficultés.
Toujours dans le souci de faciliter l'inclusion sociale des enfants sourds, le directeur Giscard Massémi invite la population matadienne à suivre les formations en langue des signes, organisée à la paroisse Notre-Dame de Fatima, siège de l'école Espérance pour sourds. Matadi, Élise Kavira, Radio Kapi.
Merci Élise. Autre nouvelle, à Kinshasa, les embouteillages continuent de compliquer le quotidien des habitants. Entre perte de temps, stress, retard et impact économique, les bouchons sont devenus un véritable défi pour la capitale congolaise. La question a été débattue dans l'émission Okapi Service où experts, élus et auditeurs ont analysé les causes de cette situation et proposé plusieurs pistes de solutions. Jocelyne Moussa-Opondé nous en parle.
Pour le pilote de ligne et expert en transport, Serge Ilunga, la situation s'explique notamment par l'insuffisance du réseau routier et la forte croissance démographique de la capitale qui exerce une pression de plus en plus forte sur les infrastructures existantes.
Vous avez Glagombe qui est encerclée par 4 communes. Toutes ces routes-là ont été bien calculées pour contenir les 600 000 habitants qui allaient logiquement à l'époque converger vers le centre-ville. Aujourd'hui, vous avez 5 millions qui font la même chose.
Plusieurs intervenants ont également insisté sur la nécessité d'améliorer l'organisation de la circulation et le respect du code de la route. Omar Kigalo estime que la modernisation du contrôle routier peut contribuer à fluidifier le trafic et à renforcer la discipline des usagers.
Il faut moderniser la ville de Kinshasa. On doit numériser les véhicules, les conducteurs. Ailleurs, et même si vous brûlez les signaux routiers, ça signale automatiquement. Autre cause, c'est la condition de vie des Congolais. On n'avait pas de moto à Kinshasa.
Parmi les autres pistes évoquées figurent la réhabilitation du train urbain, le développement du transport fluvial, l'amélioration des transports en commun, ainsi qu'une gestion plus moderne du trafic. Pour les participants, seule une approche combinant infrastructures, aménagement urbain et diversification des modes de transport permettra de réduire durablement les embouteillages dans la capitale.
Actualité internationale.
La Cour pénale spéciale de Bangui, soutenue par l'ONU en République centrafricaine, a entamé aujourd'hui mardi le procès par contumace de l'ancien président François Bozizé. Il est poursuivi pour des crimes contre l'humanité commis entre 2009 et 2013. Des crimes présumés commis par des membres des forces de sécurité de Bozizé comprennent des meurtres, des disparitions forcées, des actes de torture et des viols.
L'invité.
La Coupe du monde de football a débuté et sa retransmission est également lancée sur la télévision nationale. Toutefois, la RTNC ne diffusera pas l'intégralité des 104 matchs de la compétition. Seule une moitié sera proposée au public. Le coût très élevé des droits de diffusion explique en partie cette situation. C'est pourquoi la RTNC a souhaité informer les téléspectateurs non seulement sur les raisons de ce choix, mais aussi sur les calendriers des rencontres qu'elle retransmettra afin de vous permettre de mieux vous orienter. Écoutez à ce sujet Didier Mbouy, assistant principal du directeur général de la RTNC, et s'entretient avec Dona Madimba.
Didier Mbouy, bonjour.
Bonjour.
La Coupe du Monde 2026 a commencé et la télévision nationale de la RDC a bien diffusé l'ouverture de la compétition, mais depuis plusieurs matchs, depuis l'ouverture, ne sont plus vus à la télévision nationale. Peut-on savoir pourquoi?
Ben voilà, d'abord il faut partir de l'idée que la FIFA a vendu très cher ce match. La preuve que Canal Plus n'a pas la retransmission de ce match et Canal Plus collabore avec la RTNC. La RTNC qui justement 44 matchs. Sur les 104 matchs, la RTNC doit diffuser 44 matchs. Tout simplement parce que il y a un package proposé par New World TV, qui est une agence et une chaîne de télévision togolaise qui a acquis les droits des retransmissions de la Coupe du Monde 2026 auprès de la FIFA. Alors, la RTNC a souscrit pour 44 matchs à raison de tous les matchs des Africains et des affiches choc.
Qu'est-ce qui a fait que la RTNC se retrouve à ne diffuser que 44 matchs sur les 104?
Voilà, les matchs coûtent énormément cher. Tout simplement la cherté des matchs autrement, Canal Plus aurait pu aussi disposer. Les abonnés de Canal Plus, dans le cas d'espèce, n'auront à suivre la Coupe du Monde que par l'entremise de la RTNC. Donc, sur le canal dédié à la RTNC sur Canal Plus. Voyez-vous? Donc, les matchs coûtent énormément cher. Il n'y a qu'une poignée de chaînes à travers le monde qui ont pu avoir l'intégralité de matchs.
Ok, global.
Donc, c'est les facteurs cherté qui a fait que la RTNC se contente de 44 matchs, mais on aura tous les matchs des Africains pour le premier tour, et après le premier tour, on aura à choisir des belles affiches, comme on dit, des affiches choc.
Mais est-ce que à ce stade, le calendrier des matchs qui seront diffusés à la RTNC est connu? Est-il disponible à un endroit pour permettre à la population de bien avoir ce calendrier-là et de savoir exactement à quel moment, quel jour et quel match ils peuvent regarder à la RTNC?
Ben justement, on le fera sous peu. Il y aura une bande défilante qui annoncera les différents matchs hein, pour que les téléspectateurs soient devant l'écran. Parce que dès lors que les matchs se jouent très tard, il y a lieu de communiquer davantage sur la diffusion des matchs.
Et ce calendrier-là pourrait être disponible cette semaine, par exemple?
Disponible déjà. En début de soirée déjà, on aura une bande défilante annonçant les matchs.
D'accord. Et pour boucler cette première partie d'interview, on peut partir de cette interview en retenant que tous les matchs de la RDC, aussi loin que la RDC pourra aller, seront bien diffusés à la télévision nationale.
Il va de soi. Il va de soi. Si la RDC franchit la phase de groupe, là, obligatoirement, on doit accompagner les Léopards. Donc, voilà tout au long du tournoi.
Alors, on a bien entendu que, en partenariat avec New World, la RTNC va diffuser un certain nombre de matchs et a donc l'exclusivité sur ces matchs-là de son package. Mais est-ce que d'autres médias peuvent diffuser les matchs acquis par la RTNC ou d'autres matchs de leur choix?
Non, déjà, la RTNC a l'exclusivité justement de la Coupe du Monde sur le territoire national. La preuve, les abonnés de Canal+, habitants dehors du territoire national, n'ont pas accès à la Coupe du Monde. Donc ils sont tous géobloqués parce que nous avons l'exclusivité sur le territoire national. Mais il se trouve que certains fanzones piquent le signal de New World TV, parce que New World TV aussi a sa plateforme pour avoir l'intégralité des matchs. Donc voilà. En ce qui concerne la RTNC a l'exclusivité du match, raison pour laquelle nous avons dû approcher le CESAC pour faire respecter justement ce principe d'exclusivité sur le territoire national. Alors, les chaînes réfractaires, la sanction, elle est administrative, elle est aussi technique. Technique, c'est qu'on aura à bloquer ces chaînes-là et moyennant un montant qu'on peut payer justement pour être débloqué. Alors, la RTNC n'y est pour rien. Le propriétaire du spectacle, si je dois m'exprimer ainsi, la Coupe du Monde, c'est un spectacle. Le propriétaire du spectacle, c'est la FIFA. La FIFA a eu à instaurer des principes, à édicter des principes, entre autres, la chaîne qui a besoin, justement, au niveau de l'Afrique subsaharienne francophone, qui a besoin de diffuser le match, doit se rapprocher de la FIFA via le New World TV, la chaîne togolaise qui, justement, a acquis les droits télé auprès de la FIFA. C'est un principe. Il ne s'agit que de le respecter. La RTNC n'y est pour rien.
Didier Mboui, je vous remercie.
Merci.
Didier Mboui, assistant principal du directeur général de la RTNC, interrogé par Donna Madimba. Et c'est la fin de ce journal, préparé par Alain Hirong, Élisée Chikota, avec Pierre Diassinois, à la mise en onde de Babel Pongomassimango devant ce micro. À vous qui nous avez suivis, merci de votre attention. Bon après-midi.